Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Brigitte Tramier.
Bonjour Marc.
Votre label que vous avez fondé avec Jean-Michel Robert en 1996, les éditions Parnassi, sont maintenant disponibles sur Cobuzz en numérique, faites le bon du numérique.
Oui.
Et on entame cette collaboration avec la réédition d'un enregistrement de 1997,
oui.
De pièces de Jacques Dufly. Pièce pour clavecin, puisque vous êtes claveciniste, je ne l'ai pas précisé en début d'entretien. Si on fait un petit flashback, vous vous souvenez de comment est né cet album en 1997?
Alors cet album, il est né en fait d'une rencontre tout à fait étonnante d'ailleurs pour nous musiciens, puisque des amis luthiers nous ont permis de rencontrer Michael Thomas, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, mais qui était un collectionneur anglais, musicien, musicologue, et qui était très connu pour les expositions absolument splendides d'instruments anciens qu'il faisait, puisqu'il avait une passion pour l'instrument historique. Et il avait eu l'occasion d'en racheter et d'en faire restaurer plusieurs. Et Michael Thomas habitait dans le sud de la France, donc pas très loin de chez nous, et des amis luthiers allaient lui rendre visite et nous ont proposé de les accompagner, en nous disant « il a un clavecin absolument splendide chez lui ». Et il rêve qu'un claveciniste vienne faire un disque dessus. Donc c'était l'occasion, je venais de faire un disque d'Anglebert chez Pierre Verani, qui avait été récompensé, qui avait été remarqué par la critique. Donc Michael Thomas avait entendu parler de moi, il me connaissait un petit peu de nom. Et c'est à cette occasion que nous sommes allés le voir. Donc lorsque nous sommes arrivés chez lui, c'était très émouvant parce que l'instrument avait été préparé, il était ouvert, on voyait sa silhouette qui se détachait derrière les lumières, près d'une fenêtre. Et en arrivant, on a fait connaissance donc avec cette personne. Et il m'a dit tout de suite, voilà, l'instrument est prêt, je l'ai accordé, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait quelques notes dessus. Et puis très vite, il nous a dit, écoutez, cet instrument, je vous le prête. Venez le prendre, emmenez-le et faites un beau disque avec. Et ça, c'était une expérience extraordinaire, d'abord de générosité, de bonté, voilà, et nous ça nous a énormément touchés, donc on s'est dit bon, il faut absolument qu'on trouve un répertoire qui soit véritablement adapté à cet instrument. Et cet instrument est un instrument d'Antoine Vatter, donc un facteur français du XVIIIe siècle. Et Jacques Dufly avait dédié une pièce à ce facteur qui s'appelle La Devâtre. Alors là, l'histoire était tellement étonnante.
C'était un conte de fées, presque, finalement.
C'était un conte de fées. Finalement, on avait un instrument qui était un instrument tout à fait contemporain de ce répertoire. Et c'est vrai que c'est une musique que j'aime beaucoup. D'abord, la musique française, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me touche. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment le programme qu'il faut faire. Donc, je me suis mise à choisir. Voilà de quoi faire une compilation d'une heure de musique de Jacques Dufly. Et nous en avons parlé à Michael Thomas, qui a tout de suite été très enthousiaste. Donc dans les jours qui ont suivi, nous sommes venus chercher l'instrument. Il a passé 6 mois à la maison, donc il a fallu le remettre en état. Cet ami luthier, Thomas Murac, a donc fait des petits réglages dessus. Il y avait des bruits de clavier à réparer. Il y avait des chevilles qui ne tenaient pas très très bien l'accord. Donc il fallait aussi tailler des becs. Il est emplumé avec des plumes de bec, donc des plumes à l'ancienne. Donc c'est fragile en même temps et c'est quelque chose qu'il faut voir de près. Donc j'ai appris à cette occasion moi-même à emplumer les instruments et j'ai pu travailler, préparer cet enregistrement dans les meilleures conditions. Donc l'instrument a été stabilisé au niveau de la tenue d'accord aussi. Et nous avons trouvé un magnifique lieu qui est la chapelle du couvent royal, voilà, de Saint-Maximin, où il y a une très belle acoustique. Et voilà, nous avons donc enregistré ce programme là-bas.
Finalement, cette petite anecdote rajoute un côté un peu presque mystique, on pourrait dire, à cette histoire, du début de la rencontre de l'instrument jusqu'à la fin qui est l'enregistrement.
Tout à fait.
Et alors, ça vous était déjà arrivé comme ça, une histoire aussi étonnante?
Non, mais je crois que la vie est parfois faite de rencontres qui sont très fortes, et celle-ci en est vraiment une. Et Michael Thomas était très âgé, donc le disque est sorti en 97, et je me souviens qu'il a sa santé se dégradait vraiment beaucoup, et bon, nous avons enregistré le disque fin janvier, il est sorti courant mars. Et sa femme nous a dit, tous les jours, il attendait derrière la fenêtre que le facteur arrive pour voir si le disque allait être là. Et alors, ce qui m'a fait vraiment énormément de peine, c'est qu'il est parti une semaine avant que le disque n'arrive. Donc en fait, il y a eu un grand hommage qui lui a été rendu à l'occasion de la sortie du disque, du récital que j'ai fait. Ça a été très très émouvant. Et en même temps, j'accouchais de mon fils, donc on m'avait caché la mauvaise nouvelle que Michael était parti, parce que je crois que ça aurait fait beaucoup d'émotions. En même temps, c'était trop. Donc quelqu'un est parti, quelqu'un est arrivé, le disque est sorti. Voilà, c'était une belle aventure qui se concluait. Voilà.
Comment s'est fait le choix des pièces que vous avez interprétées sur ce...
Alors les pièces, j'ai pris vraiment... Alors il y a beaucoup de rondeaux dans les pièces de Dufli. Moi, j'aime beaucoup faire un travail sur l'ornementation. Donc c'est ce qui fait peut-être que cette version-là est une version peut-être un peu différente de celle qu'on peut entendre sur le marché du disque. J'ai travaillé avec Ton Kopman, qui est un claveciniste qui est vraiment très très inventif, très imaginatif. Donc j'avais vraiment envie de faire un travail là-dessus. Et le rondo, donc la forme couplet-refrain, se prête à merveille à ce genre de travail. Et en même temps, l'œuvre de Dufli, elle s'étale sur une quarantaine d'années. Donc il y a 4 livres de clavecin qui sont parus et qui montrent un petit peu l'évolution du répertoire pour clavier à cette époque. Donc c'est en même temps assez proche de la musique parfois de François Couperin. Les dernières pièces sont très, très proches de Mozart. On pouvait faire vraiment un disque très varié. Donc ça m'a plu, cette idée de piocher un peu dans les 4 livres et de choisir bon, les pièces qui me touchaient le plus, celles qui me semblaient, puis les plus contrastées aussi, voilà, donc la de Vatre à cause de l'histoire de la dédicace, voilà, et puis en même temps les 3 grandes pièces, la Forqueray qui commence d'ailleurs le disque, et qui est un hommage donc au gambiste Forqueray, ce sont des pièces très fortes, la Chaconne aussi, parce que ce sont des pièces qui ont été composées à l'époque de la querelle des bouffons, à ce moment où en France tout le monde se déchirait, les partisans de la musique française, les partisans de la musique italienne, et on avait ce souci chez les compositeurs français de composer un petit peu dans la grande tradition française. Donc cette magnifique Chaconne, elle est vraiment une pièce qui fait référence à ça, qui fait référence au style français qui avait été quand même porté très haut par Lully à la fin du XVIIe siècle et dont on retrouve encore ces grandes formes. Alors les formes musicales évoluent au XVIIIe, elles se simplifient, la musique italienne apporte son influence plus légère, mais on a encore ces très belles pièces, très nobles, très, très graves, majestueuses, dans lesquelles il y a beaucoup d'effets qui vont très bien pour le clavecin.
Thank you.
puisque la particularité de cet enregistrement, de l'anecdote, les anecdotes que vous avez racontées en début d'entretien, vous ont fait appréhender votre jeu différemment, finalement, au clavecin.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je trouve que la rencontre, pour un interprète, d'un instrument historique avec le répertoire qui lui a été, pour lequel il a été, pour lequel il a été conçu, alors ça, je vous avoue que... Au niveau de l'expérience musicale, d'abord c'est très fort. Au niveau, je dirais que l'instrument devient le maître pour l'interprète, au sens où c'est lui qui va vous témoigner de quelque chose. C'est-à-dire que les caractéristiques propres de l'instrument vont vous amener à dans votre jeu, à aller peut-être plus loin que vous ne l'auriez fait si ça avait été un autre instrument, avec d'autres caractéristiques sonores, un autre toucher. Les instruments comme ça anciens, du style de ce clavecin de Vater, sont des instruments, enfin c'est un instrument qui a un toucher très doux, du fait qu'il est harmonisé avec des plumes, et il a un son aussi très très doux. Donc il y a quelque chose qui vous amène à chercher, à fouiller la musique dans quelque chose de très intérieur. Ça j'aime beaucoup, c'est très beau.
Vous avez dit, j'ai essayé avec ce disque aussi d'essayer de faire différemment ces œuvres par rapport à ce qui existait déjà sur le marché des disques. Comment vous avez évolué dans votre carrière, aussi bien dans la partie, j'allais dire, plus d'apprentissage d'élèves du début jusqu'à aujourd'hui, quel était votre rapport avec les enregistrements des autres? Est-ce que vous avez été une discophile dans votre enfance? Comment vous avez entretenu ce rapport? Ou vous étiez plutôt du genre à rester plutôt proche des instruments de la partition sans trop vous intéresser de ce qui avait été fait au disque?
Disons que moi, de très très tôt, dès que j'ai découvert la musique, la chose qui m'a fascinée le plus dès le début, c'était le fait de pouvoir jouer avec d'autres musiciens, c'est-à-dire le côté soliste ou peut-être un petit peu... J'avais commencé par le piano, comme beaucoup de musiciens. Bon, le clavecin a fait maintenant, je dirais, une grande carrière. Enfin, on enseigne dans beaucoup, beaucoup de villes, on peut trouver... Mais c'est un instrument, il y a quelques années, qui était moins enseigné. Bon, le piano étant l'instrument, évidemment, le plus répandu, j'ai commencé par le piano, mais c'est un instrument vraiment soliste et très solitaire, je trouve. Et ce qui m'a tout de suite fasciné dans le clavecin, c'était le fait de jouer en orchestre, avec des orchestres, de jouer en musique de chambre. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, et qui a un côté, enfin, pour une enfant qui fait de la musique, ça a un côté magique, de jouer avec les autres, des partitions différentes, et ça fonctionne, il y a des échanges qui se passent, et tout ça. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup attirée tout de suite, assez tôt, vers le clavecin. Mon toucher aussi, mes professeurs de piano me disaient, tu as un toucher vraiment très léger. Je pense que c'est pas ton instrument, le piano. Peut-être le clavecin. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que dans mon village natal où je vivais, il y avait une dame, donc compositrice, pianiste, qui m'a donné mes premières leçons de piano et de musique, qui avait des amis musiciens qui, eux, avaient un clavecin et organisaient des concerts tous les étés. Pendant une semaine, ils organisaient des rencontres musicales avec, en même temps, des amateurs et des professionnels qui venaient des amis musiciens. Et c'est comme ça que j'ai découvert les concertos de Bach à plusieurs claviers. J'ai joué, avant même d'avoir pris mon premier cours de clavecin, j'ai joué des concertos de Bach en soliste. Donc ça a été pour moi quelque chose de très fort, un déclencheur. Après, jouer différemment, jouer autrement que ce que font peut-être mes collègues. Bon, après, ça, c'est une voix, c'est une recherche personnelle. Et puis, il y a le fait aussi que dans ces musiques du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de formes rondeaux, c'est-à-dire couplet-refrain. Donc, ce refrain qui revient en permanence, moi, je me souviens d'avoir assisté à des jurys où, si vous avez plusieurs candidats qui vont jouer la même pièce 4 ou 5 fois, vous allez entendre le rondeau une vingtaine de fois. Et c'est vrai que je me suis dit, quand on a prévu ce projet de discographique, je me suis dit, faut faire un disque dans lequel les auditeurs auront du plaisir à le réécouter plusieurs fois et le réécouter souvent. Et pour ça, il faut qu'il soit suffisamment riche pour qu'il y ait toujours des choses nouvelles à découvrir. Et ça, c'est par l'ornementation qu'on peut obtenir ce genre de résultat. Et quand le disque est sorti, Alain Anselme, facteur de clavecin que j'aime beaucoup, m'a tout de suite téléphoné en me disant « Brigitte, voilà, je voulais te dire que je viens d'entendre ton disque, il est magnifique, je l'ai écouté 3 fois aujourd'hui ». Et il m'a dit, ça m'est arrivé très rarement. Et ça, c'était pour moi, le but était atteint. Voilà. Je voulais faire un disque assez riche pour que dans les rondos, le fait que chaque fois le rondo se modifie, se transforme, s'amplifie, ou au contraire se réduit, on peut aussi dans l'ornementation décider de rejouer à la fin le rondo dans sa nudité. Et ça, je trouve, c'est très fort. C'est un peu ce que fait Bach dans sa magnifique chaconne pour violon. Vous entendez des variétés de toutes les variations qui s'enchaînent et qui le transforment, ce thème, et à la fin, il réapparaît dans sa simplicité. Et là, c'est une façon aussi de rendre hommage au compositeur, parce que vous partez de quelque chose qu'il vous a donné, vous l'avez transformé, vous vous l'êtes approprié, vous l'avez revécu à travers votre émotion, votre sensibilité, et vous revenez à la version de l'auteur à la fin.
C'est cette envie de partage, comme vous avez dit au début, avec d'autres de musiciens, qui vous a poussé aussi à fonder l'ensemble Parnassie-Dumarais.
Oui, Parnassie-Dumarais, bien sûr. Parnassie-Dumarais, c'est un peu une histoire d'amitié, c'est-à-dire c'est se dire, bon ben voilà, si on a envie de partager des beaux moments musicaux, de monter des projets, on rassemble quelques amis musiciens avec qui on s'entend très bien, et puis à cette occasion, ben voilà, on monte des programmes. Alors en musique baroque, évidemment, les programmes vont être très souvent différents, donc l'équipe va un petit peu se modifier en fonction des projets. Mais c'est vrai que c'est une façon aussi de se faire connaître. Donc avec Parnassie-Dumarais, on a entre autres enregistré aussi en concert notre version du Stabat Mater de Pergolèse, qui va bientôt d'ailleurs sortir chez Cobuz,
le mois prochain. Édition numérique, tout à fait.
Voilà, donc c'est une version live que je trouve très vivante, touchante, parce qu'il y a ce côté un petit peu fragile du direct que j'aime beaucoup. Il y a ces moments un peu où les effets sont un petit peu exagérés, peut-être par rapport à ce qu'on aurait fait en studio, mais qui donnent beaucoup de vie, je trouve, à ce genre de projet. Donc là, c'était une occasion que nous avions, un festival à Aix qui nous avait demandé de faire cette version en direct de ce Pergolèse, de ce Stabat Mater, en toute petite formation, puisque là, il y a juste 5 musiciens et 2 solistes. Donc Catherine Padeau, soprano, et Michel Géraud, haute contre, avec Flavio Losco, premier violon, et voilà notre équipe de musiciens habituels.
Vous avez parlé tout à l'heure de la première fois que vous avez entendu un clavecin dans ce festival, après avoir commencé des études de piano. Ça a été un vrai choc, une vraie révélation. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec cet instrument?
Alors la rencontre avec le clavecin, je vais vous dire, c'était quelque chose de très étonnant, parce que les amis, donc ces amis musiciens qui faisaient cette semaine de musique à Cucuron, donc dans mon village, m'avaient invité à venir écouter les répétitions. Donc quand je venais écouter, je me souviens très bien de l'année où je suis venue pour découvrir justement cette ambiance un petit peu particulière. La claveciniste jouait le 5e Brandebourgeois. Donc c'est quand même un concerto époustouflant pour le clavecin, donc j'étais très impressionnée d'entendre cette magnifique cadence. Et il se trouve que donc, tous les jours, je venais écouter les répétitions, et 2-3 jours avant le concert, un événement tout à fait dramatique et imprévisible est arrivé dans la famille de la claveciniste, qui a dû partir précipitamment. Et au moment où je suis arrivée pour écouter cette fameuse répétition, les musiciens qui étaient là m'ont dit « Brigitte, il nous faut absolument quelqu'un au clavecin, tu vas te mettre là et tu vas nous aider. On change tout le programme et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un en continuo. » Et moi, j'étais vraiment effarée.
Vous avez déjà posé vos doigts sur un clavecin ?
Jamais, j'avais jamais. Et je me suis retrouvée à déchiffrer. En plus, je me souviens très bien, je jouais Water Music de Handel. Je n'avais pas du tout l'habitude de ces musiques avec des reprises partout. Et ça a été la première aventure, les pieds vraiment tout de suite dans le bain.
On vous a poussé sur scène, en fait.
On nous a poussé sur scène. Et trois jours après, je faisais mon premier concert. J'avais 15 ans. Et bon, je découvrais le clavecin comme ça, dans le feu de l'action. Et à l'occasion d'un concert, donc ils m'ont dit, l'année prochaine, tu nous accompagnes à un concerto. Mmh. Puis l'année suivante, ça a été les concertos de Bach à plusieurs claviers. Voilà, donc très tôt, je me suis retrouvée à toucher cet instrument et j'adorais vraiment ce côté, je vous disais, partage de se sentir au milieu d'un orchestre de cordes avec des solistes et je trouvais ça très très intéressant.
Vous avez prononcé son nom tout à l'heure, Anton Koopman. Oui. Votre chemin a croisé pas mal de personnalités, alors lui notamment, oui. Et Huguette Dreyfus.
Huguette Dreyfus, que j'aime beaucoup, qui est une femme absolument extraordinaire, qui a ce côté tellement chaleureux, tellement... ses élèves, c'était une grande famille, je crois, pour elle.
Quelles ont été ces rencontres les plus importantes par rapport à quand vous avez commencé à rentrer en religion claveciniste, on pourrait dire?
Disons que moi, déjà, ce qui s'est passé, c'est que bon, je rends hommage aussi à André Reynaud, qui m'a accepté dans la classe de clavecin d'Aix-en-Provence, et qui tout de suite a eu beaucoup de plaisir à me faire travailler et m'a orienté vers, m'a recommandé auprès du Huguette Dreyfus, qui, bon, à ce moment-là, était quand même une des clavecinistes les plus connues, qui faisait un très grand stage d'été assez reconnu à Saint-Maximin, là où nous avons enregistré le Duflis d'ailleurs. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Huguette, j'ai travaillé avec elle et elle m'a accepté tout de suite. Donc je suis partie l'année suivante à Paris, travailler à la Schola Cantorum. De là, j'ai passé le concours au CNSM de Paris. Puis elle a ouvert celui de Lyon, la classe de Lyon, donc je suis redescendue sur Lyon. Enfin, tout s'est fait très très vite parce que Françoise Langelet, par exemple, qui est devenue son assistante pour la classe de basse continue, m'a beaucoup apporté aussi au niveau du travail, du toucher, peut-être cette sensibilité au relief dans le jeu. Peut-être que Huguette ne nous montrait pas forcément, mais Françoise était très sensible à ça. Justement, elle tenait tout ça de un peu l'école hollandaise. Après, j'ai travaillé un peu avec Aline Zilbereich aussi, donc j'ai beaucoup aimé cet échange que j'ai eu avec elle. Et puis après, ça a été l'occasion de travailler avec Koopman. Donc ça, c'était
fort, ça, j'imagine.
C'est un homme, c'est très fort, et en même temps, c'était très étrange comme expérience parce que c'était très déstabilisant par rapport à, je dirais, au type de jeu peut-être un peu sage que j'avais à cette époque-là. J'avais affaire à une personnalité vraiment... bon, on le connaît, il est très fougueux. Je veux dire, au clavier, c'était... J'avais jamais entendu quelqu'un jouer du clavecin de cette façon-là. Donc, tout ce que j'ai entendu là-bas qui m'a un petit peu déstabilisée au moment où je prenais des cours avec lui, que je n'arrivais pas à mettre en pratique instantanément, spontanément, je l'ai retrouvé à travers l'enseignement. Donc, après avoir fini donc, mes études, troisième cycle, CNSM, etc., bon, je me suis orientée vers l'enseignement, donc diplôme d'État, etc. Et là, j'ai fait donc, des stages à Toulouse.
Il y avait quoi, une envie de transmission ?
Il y avait cette envie de transmettre, effectivement. Et là, j'ai eu l'occasion donc, d'ouvrir la classe de clavecin au conservatoire de Valence. Donc à Valence, à travers l'enseignement, c'est là que j'ai compris tout ce que j'avais entendu que Koopman m'avait montré sur la façon de faire porter le poids naturel de la main sur le toucher et cette façon de dompter un petit peu le pincement de la corde. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très important. Et surtout pour la musique française, si vous n'arrivez pas à jouer avec... Rameau dit jouer avec la main comme morte. Quand il décrit dans ses textes la position au clavecin, il dit qu'il faut avoir la main très souple. Et c'est vrai que si vous déplacez le poids naturel de la main d'une note à l'autre, en faisant des surliés qui estompent un petit peu les pincements de cordes, etc., vous pouvez créer des dégradés vraiment de nuances sur un clavecin. Alors évidemment, c'est moins fort que sur un piano, mais vous pouvez rendre cet instrument excessivement expressif. Et c'est ce challenge-là qui me plaisait beaucoup et que j'ai retrouvé à travers l'enseignement. Donc la discographie, les projets sont venus à la suite pour me permettre de
chacun nourrit l'autre.
Peut-être d'arriver à obtenir un résultat, voilà, aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà. Ce que l'on transmet, bon, c'est...
On apprend énormément de l'enseignement, j'imagine.
C'est oui, vital, on apprend devient... beaucoup. On apprend beaucoup et oui, tout à fait. Tout à fait. Et bon, pour moi, c'est vraiment une façon de voyager un peu dans le... La musique française, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, par exemple. J'ai l'impression d'avoir une espèce d'intuition, comme si ce que je jouais, c'était là, mais c'était comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. une espèce de, oui, d'intuition. L'intuition que c'est là, que c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Alors j'aime beaucoup aller écouter les Italiens jouer leur musique italienne, j'aime beaucoup écouter, etc. Je pense que chaque claveciniste a une façon assez personnelle de ressentir peut-être la musique de son pays, de son, mmh. En tout cas, moi j'ai une sensibilité plus particulière pour celle-là.
Comment se sont faits à chaque fois les choix des disques enregistrés sur le label depuis sa création en 96?
Alors, le label, il a été. Les projets ont été un peu multiples. C'est-à-dire que Jean-Michel Robert, bon, un jour, il pourrait peut-être vous en parler mieux que moi. Il avait décidé de mettre aussi ses compétences, on dira, de musicien et de preneur de son, au service aussi d'autres ensembles. Donc, c'est-à-dire que le label, il n'a pas tout de suite été créé simplement pour Parnassie du Marais, pour produire nos propres disques. Ce n'était pas le but en soi. Mais le but, c'était de faire avec des ensembles parfois qui venaient nous voir parce qu'ils cherchaient à faire leur propre production, leur propre se faire connaître. Donc c'est une carte de visite maintenant, le disque qui est devenu incontournable. Donc il y a beaucoup de coproductions, on dira, qui ont été faites, à savoir des ensembles qui venaient avec leur subvention, leur projet, etc. Et Jean-Michel se mettait donc à leur service pour leur apporter cette aide, cette assistance technique de réalisation, et en même temps leur permettre d'être distribués, puisqu'en mettant des compétences en commun, ça permettait aussi de créer un petit catalogue, et puis de là, d'aller voir un distributeur qui pouvait vous proposer une distribution à l'échelle nationale, voire internationale, mais bon, voilà, on n'a jamais exploré, disons, à fond peut-être cette filière-là, mais aujourd'hui, cette nouvelle collaboration avec Cobuzz nous permet d'envisager les choses en grand, je dirais. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de planifier un petit peu des enregistrements tout à fait régulièrement. Donc, en même temps, de faire des enregistrements qui seraient, on dira, des projets, par exemple, de concerts, faire un petit peu des programmes un peu thématiques. Parce que ça, les gens aiment beaucoup. Par exemple, là, j'ai fait dernièrement avec mes collègues du Conservatoire d'Aix-en-Provence, avec Monique Zanetti, Sabine Veil, Sylvie Mouquet. Nous avons monté un programme autour des figures de l'amour dans l'œuvre de Campras. Et c'est un programme que nous avons déjà fait tourner de nombreuses fois et qui plaît énormément, qui touche énormément le public, puisque ce sont des portraits amoureux dans l'œuvre de Campras qui sont extraites de différentes œuvres pour faire en quelque sorte un portrait du compositeur et qui est un petit peu relié par des pièces instrumentales d'autres auteurs qui amènent les ambiances de chacun des portraits. Alors vous avez l'amour jalousie, l'amour furie, l'amour fuite, l'amour fraternel, etc. Et c'est à l'occasion d'ailleurs du colloque Campras que le Centre de musique baroque de Versailles avait organisé, entre autres à Versailles et à Aix-en-Provence, que nous avions donné donc ce programme. Donc faire des programmes thématiques, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais poursuivre le calendrier des productions discographiques en choisissant soit une thématique autour d'un auteur, soit une thématique, par exemple les figures de l'amour, ou bien un autre programme de musique de clavecin. J'aimerais beaucoup enregistrer un programme sur, par exemple, la musique de clavier de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe pour montrer l'évolution des formes. Il y a un programme de récital qui s'appelle « La merveille et l'obscur » que j'aime beaucoup jouer en concert et que je vais donner prochainement, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et qui montre un petit peu, à travers ce récital de clavecin, comment les formes musicales ont évolué dans ce répertoire-là, de l'écriture à cinq parties à la manière de Lully et de l'écriture de l'orchestre, en fait, avec les transcriptions, par exemple, de D'Anglebert, des œuvres de Lully, jusqu'à, par exemple, la musique de Dufli, où là, vous avez de la musique qui annonce déjà complètement le pianoforte et la musique classique.
Oh.
Quelle place prend la recherche dans votre travail, à parallèlement à l'enseignement, à ces concerts?
Alors, la recherche, elle a pris énormément de place il y a quelques années. Mmh. J'ai engrangé énormément de musique, j'étais tout le temps dans les bibliothèques, donc que ce soit dans le sud ou à Paris. Et il y a beaucoup, beaucoup de répertoires que nous avons à la maison, dans la bibliothèque, qui restent encore à découvrir, qui restent encore à déchiffrer. Donc, notre emploi du temps est très chargé, j'avoue, parce que bon, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, disons que la recherche, elle reprend sa place en fonction des projets que nous mettons en place. Donc, bon, là, il y en a beaucoup là, pour les mois à venir. Donc, petit à petit, je pioche dans cette réserve, en fait, de répertoires que j'ai à la maison. Et voilà, qui va nous permettre, je pense, de faire encore de nouveaux projets tout à fait intéressants.
Vous avez des envies précises de répertoire, de choses, de directions vers lesquelles vous n'avez pas été jusqu'ici?
Ah ben de toute façon, disons qu'en soliste, par exemple, j'ai fait beaucoup de musique française. Ça, c'est vrai qu'au clavecin, bon, j'ai fait un disque d'Anglebert Lully, donc, que nous avons produit avec le label Parnassi, le Dufli, bien sûr. Je pense que j'explorerai encore de la musique française parce que il y a tellement d'auteurs qui sont magnifiques. Forqueray, j'adore. Par exemple, la musique de Forqueray, c'est tellement excessif et j'aime beaucoup cette façon un peu théâtrale d'écrire de la musique pour cet instrument. Le clavecin, ça peut être un instrument en même temps bouleversant, si vous savez aller au fond des pièces tellement tendres et tellement lentes. J'ai de plus en plus de plaisir à jouer ces pièces-là, plutôt que la musique de Scarlatti, qui est très très extériorisante, qui est très belle, hein. Il y a des choses que j'adore. Il y a un programme d'ailleurs que je fais avec Jean-Michel Robert qui s'appelle « Du baroque à l'indicible », où là j'ai choisi la fantaisie chromatique de Bach, une magnifique sonate de Scarlatti, très très virtuose, un très bel air de Handel, très très orné, une pièce complètement émouvante, bouleversante, de Dufli, la Silva. Et à travers ces types de formes de pièces pour clavier qui sont très extrêmes et très différentes les unes des autres, Jean-Michel a enregistré ces pièces-là sur le clavecin, c'est-à-dire c'est ma version, c'est ce que je fais qui est enregistré. Et à partir de programmation informatique, il va faire de la musique assistée par ordinateur. Donc nous faisons des passerelles entre la musique jouée en direct, la musique et informatique. Et en même temps, ça permet de montrer au public à quel point, je veux dire, un instrument comme celui-là peut être aussi une source d'intuition, peut permettre aussi des productions tout à fait contemporaines. Parce que si vous prenez, par exemple, dans les résonances de l'instrument, toute la partie aiguë des harmoniques, cette partie-là que l'on n'entend pas à l'oreille, vous la redescendez dans une zone audible et vous faites de la musique avec, c'est toujours du clavecin, c'est toujours l'interprète qui est là, que vous avez entendu, c'est toujours la musique du compositeur, mais pourtant c'est une autre musique. Et ça, c'est très étonnant. Sur le site, d'ailleurs, on fera peut-être un disque autour de ce programme-là, du baroque à l'indicible, qui est très étonnant et tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant.
Quand vous ne jouez pas de clavecin, quand vous n'en écoutez pas, est-ce que vous écoutez d'autres types de musique?
Alors, écoutez,
est-ce qu'il reste du temps pour ça?
Oui, il m'en reste. Et je vous dirais même mieux, il n'y a pas très longtemps, j'ai récupéré mon premier piano qui était resté chez mon père. Donc là, il est revenu à la maison.
Donc vous reposez vos mains sur des pianos?
Oui, parce qu'on a des amis qui ont un refuge à la montagne. Et bon, voilà. Donc la tentation est revenue de toucher un peu, de poser les mains sur le clavier du piano. Donc Satie, Debussy, ça me permet de revenir, encore dans la musique française d'ailleurs.
Vous n'aviez pas joué au piano depuis...
J'avais plus joué du piano depuis des années, et j'ai retrouvé énormément de plaisir à ça. Donc, la musique c'est quand même quelque chose d'universel, donc je crois qu'il ne faut pas non plus se spécialiser que sur un instrument, que sur un répertoire. Mais il faut arriver un peu aussi à toucher à toutes sortes de musiques. Et puis, alors, l'expérience du baroque, justement, avec ce travail sur toute cette liberté, sur la dynamique des harmonies, sur le côté rhétorique de la musique, quand vous jouez, par exemple, du Satie, ben vous êtes encore dedans, quoi. Je veux dire, c'est toujours là, c'est un autre langage, mais la démarche est la même. C'est très étonnant. Moi, j'adore jouer du Satie sur le piano. Je me rends compte à quel point le baroque apporte énormément. Finalement, dans nos conservatoires, on devrait faire jouer tous les élèves le répertoire ancien sur les claviers anciens, sur les pianos, l'orgue, le piano forte, etc. Avant d'arriver au piano moderne, ils apprendraient énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves à Aix qui pratiquent en même temps le piano et le clavecin. Et ça, je trouve, c'est un enrichissement pour eux aussi. Alors, c'est difficile disons, d'associer les deux. Parce que si vous voulez jouer vraiment le très grand répertoire pour piano, il vous faut beaucoup de force, il faut beaucoup d'agilité, il faut... Donc ça demande des qualités qui ne sont pas du tout les mêmes que pour toucher un clavecin. Oui, là, il faut beaucoup de détente, très peu de poids, enfin surtout du poids et pas beaucoup de force. Hein. Sinon, le toucher peut devenir très agressif. Et...
Un des plus grands maîtres de votre instrument, Gustav Leonhardt, est disparu il y a quelques mois, ça va bientôt faire un an. Qu'est-ce que ça, son approche de l'instrument vous a apporté personnellement ?
Ah ben, ça fait partie de ces clavecinistes qui ont vraiment marqué un tournant, je dirais, dans la redécouverte de ces instruments-là. Ce sont des gens qui ont ouvert en fait un chemin extraordinaire dans lequel des multitudes de musiciens se sont engouffrés. Et je crois qu'aujourd'hui, on leur doit beaucoup encore, s'ils n'avaient pas été là, pour rejouer tout ce répertoire, pour faire toute la démarche, pour tout l'enseignement qu'ils nous ont donné. Bon, c'est très important, ce sont des gens qui ont beaucoup marqué le renouveau de la musique ancienne.
Bien, et bien Brigitte Tramier, je rappelle donc que ce disque Dufli est disponible désormais sur Qoboz. Merci.
Merci.
Qoboz.com Rencontre par Marc Zisman.